Le CGRI met en garde US Israël contre les agissements aériens. L'exercice à grande échelle Volonté des Véridiques a débuté ce lundi matin 20 juin dans la bande de Gaza avec la participation de plusieurs organisations militaires affiliées au Saraya al-Rots et la deuxième réunion tripartite sur le projet du gazoduc transsaharien TSGP s'est soldée par un accord dans le but de relancer ce méga chantier d'une longueur de plus de 4000 km. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Un commandant militaire iranien a affirmé que les mesures militaires conjointes prises par Israël en coopération avec un certain nombre de pays arabes de la région sont dues au désespoir de ce régime. Le porte-parole des forces armées iraniennes, le général Abolfaz Shekarchi, a fait cette remarque ce lundi 20 juin après que le ministre israélien des Affaires militaires, Benny Gantz, a affirmé que le régime était en train de construire une alliance régionale de défense aérienne parrainée par les États-Unis en coopération avec certains États arabes de la région pour déjouer ce qu'il a appelé les attaques de l'Iran. La raison principale derrière cette mesure est tout simplement le désespoir du régime sioniste, a déclaré le général Shekarchi. Concernant le vol des bombardiers B-52 américains et des chasseurs israéliens au-dessus du golfe Persique, le général Shekarchi a affirmé qu'il s'agit là de pur spectacle. Les responsables criminels sionistes ont reconnu le rythme accéléré de l'effondrement de leur régime sanguinaire, a-t-il rappelé, ajoutant. Quant aux Américains, ils savent bien que toute petite erreur de calcul stratégique leur fera courir le risque de se voir gifler encore plus dur qu'avant. De même, le commandant de la force de la DSA de l'armée de la République islamique d'Iran, le général Sabahi Fard, a décrit comme suit de quoi sont capables aujourd'hui les défenses anti-aériennes du pays. Les sites de radar et de contrôle de l'artillerie anti-aérienne de l'Iran sont dans un état permanent de renouvellement et d'optimisation en utilisant des systèmes avancés de fabrication nationale. Même des zones au-delà des frontières nationales n'échappent pas aujourd'hui au contrôle de notre artillerie anti-aérienne qui observe tous les agissements des puissances extra-régionales. L'autorité de la force de la DSA repose sur le talent des experts et techniciens iraniens et sur leur capacité de produire des équipements sophistiqués, sans oublier le pouvoir de la foi et des convictions des combattants de ce secteur, a-t-il aussi ajouté. Et pour finir, le général Sabahi Fard a affirmé que les ennemis sont familiers avec la puissance de l'Iran en termes de DSA, ce qui leur fait peur d'ailleurs. Les ennemis savent que nous sommes vigilants et déterminés à riposter avec fermeté à leur moindre erreur, a ajouté le commandant de la force de la DSA de l'armée de la République islamique d'Iran, le général Sabahi Fard. L'exercice à grande échelle Volonté des Véridiques a débuté ce lundi matin 20 juin dans la bande de Gaza avec la participation de plusieurs organisations militaires affiliées au Saraya al-Rots, la branche militaire du djihad islamique de la Palestine. Plus tôt, Abu Hamza, porte-parole des brigades de Saraya al-Rots, avait annoncé que diverses opérations sur le terrain seraient simulées pendant l'exercice. Il a déclaré que divers équipements militaires, y compris des unités de missiles et d'artillerie, seraient présentés lors de cet exercice, ajoutant que cette initiative visait à accroître la préparation au combat des combattants palestiniens et a insisté sur la poursuite de notre long chemin vers la libération et le retour des réfugiés. Abu Hamza a souligné que l'exercice se déroulerait avec l'usage de divers équipements militaires, dont les plus importantes sont les unités de missiles et d'artillerie. Dans ce cadre, Tahrir Salmi, porte-parole du mouvement du djihad islamique en Palestine, a déclaré que la région était confrontée à des développements majeurs avec la présence de l'unité de l'Axe de la Résistance. Nous parlons de grands développements dans la région en raison de la résistance du peuple palestinien, a-t-il précisé, ajoutant. Sans aucun doute, ces évolutions ne se situent pas seulement au niveau de la Palestine. Avec l'unité de la résistance et l'ouverture de tous les fronts en cas de poursuite des crimes systématiques de l'ennemi, il se situe également au niveau régional et international. Et pour conclure, il a fait allusion au dévoilement par les brigades de Saraya al-Rots du drone Jenin et au ciblage d'une jeep israélienne avec ce drone, le qualifiant porteur d'un message important pour l'ennemi sioniste. La résistance est prête à vaincre l'occupant et à restaurer tous les droits du peuple palestinien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé son profond regret et la profonde sympathie de la République islamique d'Iran pour le meurtre d'un certain nombre d'Éthiopiens lors d'une attaque par des groupes d'insurgés armés dans la région d'Urmia. Saïd Khatibzadeh, tout en condamnant fermement l'attaque terroriste, a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple éthiopien ainsi qu'aux survivants de l'attaque terroriste. Au moins 260 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées lors d'une attaque par des hommes armés dans la région d'Urmia, dans l'ouest de l'Éthiopie. Ce massacre marque l'un des jours les plus sanglants en Éthiopie. Les habitants qui ont survécu au massacre ont rapporté que les assaillants avaient massacré des personnes et enterré leurs corps dans des fosses communes. Les ministres nigériens, algériens et nigérians de l'énergie ont tenu ce lundi 20 juin à Abuja une deuxième réunion tripartite sur le projet du gazoduc transsaharien, TSGP. La rencontre s'est soldée, selon un communiqué du ministère algérien de l'énergie et des mines, par un accord dans le but de relancer ce méga chantier d'une longueur de plus de 4000 km. Celui-ci a porté sur la mise en place d'un groupe de travail pour actualiser l'étude de faisabilité de ce projet. Dans son allocution prononcée à cette occasion, Mohamed Arkab a confirmé l'approbation des décisions de la précédente réunion tenue à Niamey, au Niger, le 16 février 2022, qui avait défini une feuille de route pour réaliser ce chantier. Pour le ministre algérien, ce gazoduc est un exemple de la volonté de ces trois pays de mettre en place une infrastructure régionale d'envergure internationale. Il est également considéré comme une nouvelle source d'approvisionnement face à une demande toujours croissante compte tenu de la place que le gaz naturel occupera dans le mix énergétique à l'avenir. Mohamed Arkab a présenté également les avantages les plus importants de la réalisation de ce projet. En plus du développement économique et social que ce projet apportera à la population locale et aux différentes zones de transit, il donnera également la possibilité de relier d'autres pays comme le Mali et le Tchad et mettra également le renforcement des infrastructures existantes et nouvelles pour le transport par pipeline qui relie les champs de l'extrême sud-ouest de l'Algérie, a expliqué le ministre algérien de l'Énergie et des Mines. Des dirigeants africains ont demandé lundi 20 juin une cessation immédiate des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, où les combats ont entraîné des pertes de vie humaines et de biens matériels ainsi que des déplacements massifs. Les dirigeants du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la RDC, du Burundi et de la Tanzanie ont appelé les groupes armés à se retirer des positions récemment conquises. Dans le même temps, le processus politique doit être intensifié par toutes les parties afin de permettre aux citoyens de la RDC de se sentir en sécurité et de pouvoir reprendre et poursuivre leurs activités sociales, culturelles et économiques, ont indiqué les dirigeants dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion d'une journée à Nairobi, capitale kényane. Les dirigeants qui se sont réunis pour le troisième conclave des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, sur le dialogue intercongolais dans le cadre du processus de Nairobi, ont demandé à toutes les parties de faire cesser et de décourager tout langage insultant, discours de haine, menaces de génocide ou autres discours politiquement incitants. Les dirigeants se sont engagés à contribuer à la réconciliation et à une paix durable et se sont déclarés déterminés à trouver une solution rapide et durable au conflit en RDC, en particulier dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces nouveaux efforts surviennent dans un contexte de conflit diplomatique entre le Rwanda et la RDC, Kinshasa accusant notamment Kigali de soutenir les rebelles du mouvement du 23 mars M23, responsables des combats qui ont récemment forcé des milliers de personnes à fuir vers l'Ouganda. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. et si un Iran nucléaire était le moins mauvais choix pour Biden. Washington craint une bombe nucléaire iranienne imminente. L'accord sur le nucléaire, s'il passe ou s'il casse, entraînera de toute façon une crise. Que peut faire Biden, pour qui le pétrole iranien est vital et de qui ce même pétrole s'éloigne à une vitesse grande V depuis que la Russie et son bloc centre-asiatique se sont mis à s'approcher follement de Téhéran? S'adapter à un Iran nucléaire, n'est-ce pas le moins mauvais choix? C'est la question sur quoi revient Al Jazeera. Washington se trouve dans une situation compliquée vis-à-vis de l'Iran. Avant d'entrer à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden avait promis qu'il retournerait aussitôt et via des négociations à l'accord nucléaire avec l'Iran. Or, durant un an et demi depuis le début de son mandat, les États-Unis et l'Iran n'ont obtenu aucun succès pour un retour à l'accord dont Donald Trump était sorti en 2018. Pendant ce temps, l'Iran a continué de développer son programme nucléaire en augmentant le niveau de son enrichissement, tout en suspendant certaines de ses coopérations avec la IAEA. Les États-Unis, quant à eux, ont imposé davantage de sanctions à l'Iran. Il y a quelques jours, Ned Price, le porte-parole officiel du département d'État américain, avait affirmé que Washington, avec ses partenaires au Moyen-Orient, cherchait à entreprendre des mesures appropriées face à l'aggravation des tensions que l'Iran provoque dans la région. Il avait aussi prétendu que l'Iran pourrait s'acquérir dans quelques semaines de la bombe nucléaire. C'est la raison pour laquelle nous demandons le retour bilatéral à l'accord nucléaire. Tout cela témoigne de la situation compliquée dans laquelle Washington s'est engagé, et cette situation aura, avec ou sans un retour à l'accord nucléaire avec l'Iran, de vastes impacts pour les alliés de ce pays, d'Israël jusqu'au pays du Golfe Persique. Giorgio Caviero, du Centre d'analyse des États du Golfe Persique, estime que si l'accord nucléaire est relancé et revivifié, ces pays s'inquiéteront de plus en plus de l'accès de l'Iran aux ressources financières, car il pourrait ainsi fournir l'argent nécessaire aux groupes qu'il soutient dans toute la région arabe, et cela suscitera l'inquiétude d'Israël et certains pays du Conseil de coopération du Golfe Persique. Et si les actuelles négociations à Vienne boutent à l'impasse et échouent, de sérieux dangers s'annonceraient. L'Iran ne sera plus contrôlable, ce qui sera source de grandes menaces pour les pays de la région, note Giorgio Caviero. Et Al Jazeera de poursuivre. Parvenir à un accord avec l'Iran s'avère être la voie la plus rapide pour arrêter les menaces nucléaires et contrôler les cours de brut dans le monde, ce qui s'est transformé en fait en le plus grand défi politique pour Biden. Sans un accord nucléaire, l'Iran augmenterait ses capacités dans le domaine des armements atomiques. Et qui plus est, si l'administration Biden n'arrive pas à briser le record actuel des prix de pétrole, il faut solliciter les dirigeants d'Abu Dhabi, de Riyad, de Koweït et de Bagdad pour qu'ils augmentent leurs exportations de pétrole sur les marchés du monde. Puis il y a Israël. Ces dernières années, Israël a opté pour la politique d'attaque cybernétique, d'assassinat ciblé et de sabotage, et tout cela dans le but de ralentir le programme nucléaire de l'Iran. Mais Téhéran lui a répondu par des attaques cybernétiques tout en accélérant ses activités nucléaires. Selon l'Institut de sécurité d'Israël, au cas où les négociations échouent, l'Iran poursuivra ses efforts pour parvenir à l'arme nucléaire, ce qui pourrait déclencher une guerre élargie dans la région ou au moins intensifier les conflits au Liban, en Syrie et en Irak, autrement dit, conduire à une escalade dans toute la région. L'option militaire sera la dernière option. Si les rapports des services de renseignement disent que l'Iran cherchait à se procurer des ogives nucléaires, personne, ni à Washington, ni à Tel Aviv, ne pourrait le négliger. C'est la raison pour laquelle les pays tels que les Émirats, qui avaient agi prudemment envers le plan global d'action conjoint et même accueilli la sortie des États-Unis de l'accord de 2015, s'emploient à présent à embellir leurs relations avec Téhéran. Dalia Dasakaye, professeur à l'Université de Californie à Los Angeles, estime que cette fois-ci, il sera plus difficile de contrôler l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran. Israël a suspendu provisoirement ses actes de provocation après l'accord nucléaire, mais les a repris en 2018, après le retrait de Trump de cet accord. Et si Israël arrive à cette conclusion qu'un nouvel accord nucléaire ne pourra pas endiguer le programme nucléaire de l'Iran, il poursuivra ses attaques, même si l'Iran respecte les clauses du nouvel accord. Il y a en plus un autre défi sur fond d'une revivification éventuelle de l'accord nucléaire. si la future administration US se retire, elle aussi, de l'accord nucléaire? Est-ce que l'Iran respectera encore son engagement pour ne pas essayer de se doter de l'arme nucléaire ?